Avant de plonger dans votre prochain épisode de Course Épique, je voulais vous parler de l'Odyssée ASPTT, le podcast qui retrace une épopée sportive de 125 ans. Le mouvement ASPTT propose une multitude d'activités sportives pour tout niveau, du débutant au confirmé, dans toute la France. J'ai particulièrement aimé dans ce podcast l'alternance entre les anecdotes historiques sur de nombreuses disciplines sportives et les témoignages en immersion des adhérents de l'association. C'est à la fois rythmé, vivant et instructif. Avec ce podcast, vous allez vous plonger dans l'odyssée de cette association, véritable pionnière dans la démocratisation du sport en France. Et puis les 4 épisodes de l'Odyssée ASPTT mettent en lumière ce qu'il y a de plus essentiel dans le sport selon moi. Les notions d'égalité, de solidarité, d'inclusion et d'accessibilité. Et dont la course à pied est d'ailleurs une très belle expression, vous êtes bien placé pour le savoir. Vous savez désormais ce qu'il vous reste à faire. Faites comme moi, courez découvrir les 4 épisodes de l'Odyssée ASPTT sur votre plateforme d'écoute favorite. Bonjour à tous et bienvenue dans Pastille, le format court de course épique. Cette pastille fera souffler de temps à autre un vent de fraîcheur entre vos oreilles avec le meilleur de l'actualité running et trail, mais aussi des invités spéciaux ou encore des sujets sur le thème de la santé. Et j'imagine que la question vous titille, mais cette pastille ne remplace pas les formats habituels de course épique. C'est un format supplémentaire qui va nous permettre d'échanger encore plus sur notre passion commune. Allez, je ne tourne pas en rond plus longtemps et laisse place à notre pastille du jour. Bonne écoute! Salut Arthur, je suis ravi de te recevoir dans cet épisode de Pastille, le format court de course épique. Bienvenue.
Salut Guillaume.
Très heureux d'échanger avec toi. On avait échangé il n'y a pas si longtemps que ça, enfin il s'est passé beaucoup de choses depuis, c'était en mars 2023. C'était l'épisode 109 de Course Épique, de plus belle, qui était un épisode qui revenait sur ton échappée belle 2020, l'une des rares courses qui à l'époque avait survécu aux annulations en pagaille du Covid, et puis qui s'était un peu inscrit dans un moment un peu charnière pour toi, ton parcours. Tu sortais de deux désillusions sur la TDS, la Diag, et puis tu étais en train de remettre en place pas mal de choses, avec notamment la notion de plaisir qui était un peu au cœur de ton objectif du moment que tu avais pleinement réalisé sur cette course. Voilà, je te suis évidemment de près depuis, ça faisait un petit moment que j'avais envie qu'on échange, et puis de prendre de tes nouvelles, et puis d'en donner aussi à nos auditeurs qui te suivent avec beaucoup d'intérêt. J'ai beaucoup de retours sur toi et puis sur cet épisode, donc je suis très content qu'on ait ce temps d'échange aujourd'hui. On va revenir ensemble sur ton année 2023, une année qui a été faste et accomplie, tu vas nous la raconter. Et puis on va parler aussi des projets pour cette nouvelle année, on est en janvier 2024, c'est un peu le moment de faire le point aussi sur les perspectives et sur ce qu'on peut se souhaiter pour l'année 2024. T'es partant pour tout ça ?
Avec plaisir, non, ça va être chouette. Je me souviens quand on avait parlé de cette échappée belle, la dernière fois, c'était un bon moment de rétrospective et j'avais beaucoup apprécié.
Bah, moi aussi, en tout cas, tant mieux. Arthur, on va commencer avec une petite question un peu déconne. Tu connais le podcast. On enregistre cet épisode le 25 janvier, qui marque pile poil aujourd'hui, je ne le savais pas, j'ai découvert. C'est le 100e anniversaire jour pour jour de l'ouverture des premiers JO d'hiver à Chamonix. Voilà, je ne sais pas si tu le savais.
Eh ben non.
Cette année-là, il y avait 16 nations qui étaient présentes pour ces premiers JO d'hiver avec 258 athlètes, dont seulement 13 femmes et un total de 16 nations. Et il y avait 16 épreuves à l'époque sur ces Jeux Olympiques avec notamment le patinage artistique, le patinage de vitesse, le curling, le bobsleigh, le ski de fond ou encore le hockey sur glace. Il y avait une épreuve cependant qui avait un nom un peu plus énigmatique que les autres, qui s'appelait patrouille militaire. Est-ce que tu as une idée de ce que pourrait être le sport plus moderne et plus connu aujourd'hui qui lui ressemble et auquel il pourrait s'apparenter?
Alors bah comme ça, je te dirais le ski de randonnée, le ski alpinisme, mais...
Le côté militaire.
Mais... Ouais. Non ? Ah, le biathlon.
Exactement, absolument, c'est une bonne réponse. Ouais, la patrouille militaire, donc c'était une épreuve qui combinait les deux skis de fond et tirs au fusil. Voilà, à l'époque, ça s'est couru sur une distance de 30 km avec un dénivelé de 785 mètres. La France y signa une très prometteuse 3e place sur 6 nations. Voilà, on jaugera si c'est bien ou pas bien. Peut-être annonciatrice en tout cas des succès à venir de Martin Fourcade, notamment 90 ans plus tard. Et pour la petite anecdote, tu as parlé de ski de fond. L'épreuve de ski de fond, elle faisait 50 bornes et elle était tellement éprouvante que seulement 2 des 18 participants ont réussi à la terminer. Voilà. Ils avaient peut-être mis la barre un peu haut ou en tout cas un peu trop loin peut-être pour cette première.
C'était des ultra-trailers qui avaient fait les épreuves, non ?
Ouais, exactement. Bon, trêve de plaisanterie. Arthur, je vais te demander un exercice habituel du podcast. Je vais le faire de façon un peu différente d'habitude. Je voudrais que tu me parles de 3 dates majeures de ta vie. 3 moments marquants. Je laisse libre cours au perso, au sportif, à ce que tu veux. Mais voilà, 3 dates là, qui te viendraient pour te raconter. Puis on va ensuite rentrer un peu plus dans le détail de ton parcours sportif. Mais voilà, peut-être 3 moments symboliques de ta vie.
La première, je vais te dire, ça va tout tourner autour du sport, mais pas forcément du sport en compétition. Le premier dont je me souviens qui est marquant, c'est le 14 juillet 2000. Pour te dire, j'ai un petit caillou chez moi marqué de cette date. En fait, c'est la première fois, j'avais donc 6 ans, 6 ans et demi, où j'ai réussi à atteindre le sommet du Taillefer. C'est un sommet en Belledonne qui me faisait rêver quand j'étais petit, parce que tous mes parents, j'entendais tout le temps, tous les étés, on va faire le Taillefer, on ramène du Génépi. Et pour moi, c'était l'expédition, tu vois, qu'ils faisaient avec leurs amis. Ils faisaient ça en une journée complète. Et j'avais dit à mon père, moi, je veux y aller avec vous. Et il m'avait
Pour le
dit, bah, on va
Génépi.
s'entraîner. Voilà, ouais, c'est ça. J'avais déjà compris, tu vois. Non, donc je m'étais entraîné à marcher avec un sac à dos, tout ça. Et le 14 juillet 2000, j'avais fait l'aller-retour. Donc je crois que j'avais mis, il faudrait lui redemander, mais 11 heures aller-retour.
Ok. T'as une idée du dénivelé?
Ah oui, faudrait vérifier, mais je crois qu'il y a 1200 ou 1500 mètres de dénivelé d'un coup.
Ouais, costaud, ouais. À 6 ans.
Et à 6 ans, c'était une belle réussite. Ça m'avait vraiment, tu vois, procuré quelque chose en moi de hyper gratifiant. J'étais très très content de moi, juste de moi, quoi. Donc voilà, cette date-là, elle a été marquante. Mais après, j'aimais pas forcément courir, donc tu vois, ça n'a pas été l'élément déclencheur de à 7 ans me dire je vais faire ça, mais en courant.
Ta première
Mais en tout
réalisation,
cas,
ça a
ça
été
m'a, voilà,
ton premier
exactement.
accomplissement.
Et après, deuxième date, ça va paraître simple, mais c'est la première vraie victoire que j'ai eue sur un trail long. C'était le trail des passerelles du Monténard en 2016, si je dis pas de bêtises, parce que moi et les dates, c'est un peu compliqué, tu vois, c'est comme les temps de course, je sais jamais exactement. Mais je crois que c'est 2016 où je gagne le 65 km en m'entraînant pas très bien parce que l'été, bah, quand on est étudiant, on bosse. Mais je me retrouve devant, je gagne. Et là, en fait, je me dis que, en effet, peut-être que j'ai des, pas des cap, oui, si, des capacités, tu vois, un bagage un peu de gamin avec les os solides, le fait d'être tout le temps en montagne, bah, ça amène une aisance sur les parcours. Et là, je me dis, sur cette course, si tu te donnes vraiment et que tu te consacres pleinement dans ce sport, tu peux peut-être bah, prendre énormément de plaisir et en plus, jouer sur le devant de la scène, ce qui, bah, ça procure toujours des super sensations. Tu vois, faut pas se le cacher. L'ego est mis en avant et c'est super. Ça, c'était la deuxième date. Puis la troisième, je pense que c'est quand même l'aller-retour que j'ai réussi à faire au Mont-Blanc, le défi La Rosière-Mont-Blanc-La Rosière en 2019, pendant le Covid, pareil. Enfin, c'était juste avant d'ailleurs, qu'on a fait avec mon ancien coach et ami Fabien Antolinos. Et là, c'était vraiment quelque chose de partagé. C'était pas du domaine de la compétition du tout. On était un peu un duo, et puis on est parti au milieu de la nuit pour aller faire le sommet, le toit de l'Europe, revenir dans la même journée. Et là, on a vécu quelque chose de d'assez inoubliable que j'ai envie de revivre d'ailleurs. Tu vois, j'ai d'autres projets en tête qui sont un peu bah, différents, mais un peu dans le
Même
même
esprit,
domaine,
ouais.
quoi, de faire voilà le plus rapidement possible quelque chose de très long, mais où il y a un sens, tu vois, c'est pas juste tenter de traverser la France parce que c'est fun. Certains vont avoir un sens là-dedans, moi j'en aurais pas, donc j'ai envie de trouver quelque chose qui a du sens. Voilà les
Et
trois
qui serait un
dates.
projet partagé aussi?
Là, le prochain que j'aimerais faire, ce serait pas partager de bout en bout, j'aimerais plus être accompagné, tu vois, comme par exemple Lambert sur son GR20. C'est son projet, par contre, sans tous les autres autour et ses potes,
Ça tient pas.
il n'aurait jamais pu le faire, voilà. Donc finalement, c'est partagé, mais pas en duo.
Très belle date en tout cas. Bravo. Ça pave bien ton parcours de vie. On va parler plus particulièrement de sport, Arthur, que ce soit dans ta pratique plus personnelle depuis l'enfance, ton cursus d'études aussi, où le sport a été assez central jusqu'à en arriver au trail running à haut niveau d'aujourd'hui. Donc voilà, tu peux prendre ton temps, il y a pas mal de choses à dire, mais est-ce que tu peux nous raconter depuis tes débuts à ski alpin, ton envie d'être tout le temps dehors jusqu'à tes études, les STAPS, jusqu'à ce qui nous mène aujourd'hui au plus haut niveau en trail. Est-ce que tu peux raconter à nos auditeurs un peu tout ton parcours de vie et tout ton cheminement?
Ouais, bien sûr, t'hésites pas à me dire si je suis trop long parce
On a trois quarts d'heure,
que.
c'est parti.
Ah bon, ça va. En gros, pour faire assez simple, j'ai commencé l'activité, je dis pas le sport parce que c'était plus de l'activité outdoor. À 2 ans, je crois que j'étais déjà sur les skis. Donc voilà, j'ai commencé, comme tu dis, par le ski alpin avec mes parents. En gros, c'était ski alpin tous les week-ends. Et quand il n'y avait pas assez de neige ou plus assez de neige, c'était de la randonnée à raquettes. Donc ça, c'était vraiment pour l'hiver. Bah, ma passion, c'était clairement le ski alpin, hein. Moi, je me voyais petit, je voulais déjà faire du club. Je voulais vraiment faire les compétitions de descente. Tu vois, j'adorais ça. J'aimais pas tellement l'effort physique à proprement parler, tu vois, de monter, par exemple. Je me serais, je pense, jamais dit, bah tiens, j'aimerais bien, en fait, ne pas prendre les remontées mécaniques, tu vois. Pour moi, c'était la glisse. Voilà, j'aimais l'activité, j'aimais être dehors, mais j'aimais pas forcément l'effort, tu vois, la sensation d'effort. Pour moi, c'était plus comme une douleur, pas forcément de notion de plaisir dans l'effort physique éreintant. Donc voilà, j'ai commencé par le ski alpin, la raquette. L'été, on faisait beaucoup de randonnées, tu vois, jusqu'à mes 12-13 ans. Tous les week-ends d'été, on faisait une randonnée dans un des quatre massifs autour de Grenoble, mes parents habitant au pied du Vercors. Donc on en a fait enfin, un nombre incalculable, dormi dans des refuges avec les amis, tu vois, faire des feux de camp, voir les chevreuils, les bouquetins, les chamois. Et petit à petit, je pense que je me suis un peu bâti en tant que personne en montagne. Je me voyais très bien dans ce milieu, mais il fallait que j'y retourne très souvent pour peut-être me raccrocher à ça. Et j'ai toujours gardé ce lien. Et en grandissant, forcément, là, bah, j'ai plus pris goût à la compétition, à l'effort personnel. Donc, tu vois, petit à petit, je pense que c'est venu l'idée de, ah bah, au lieu de faire de la randonnée avec le sac à dos, le sandwich, eh bah, je dis à un copain, tiens, demain, ça te dit, on fait ce sommet, mais bah, on y va en basket. Et finalement, je me souviens que arrivé au lycée, j'étais en seconde, là, on peut dire que j'ai commencé le trail, mais pour moi, c'était pas tellement du trail, tu vois, c'était
La
courir,
continuité, ouais.
voilà, ouais, courir tranquillement en montagne avec un pote. Et j'y allais le week-end. Et c'est là que j'ai vu sur YouTube, ah, mais en fait, y en a, ils en font en compétition, c'est un sport. On a commencé à se passionner à ce sport avec un de mes amis d'enfance. Et c'est vraiment venu lycée, avant que j'arrive en STAPS. Donc, tu vois, je fais le lycée, je commence à courir un peu, à faire plein de sports en même temps. Je faisais du tennis, du rugby, du foot. Enfin, en
Les Jeux
3-4 ans,
Olympiques à
j'ai
toi
fait
tout
tout
seul.
ça, quoi. Ouais. Non, j'ai en continuant le ski alpin, parce qu'au lycée, j'étais pas en classe sport, mais c'est un lycée où il y a quand même des aménagements. Et j'ai pu faire les championnats de France de ski cross en descente. Donc, j'avais gardé quand même l'hiver les pieds dans les chaussures de ski, hein.
Tu m'avais dit à l'époque, je me souviens dans notre échange, que tu avais presque plus de facilité sur le ski qu'en course à
Oui.
pied, qu'en termes de performance naturelle, etc., avec tes capacités, que finalement le ski, tu performais mieux. En tout cas, ça a
Ouais.
peut-être évolué depuis, mais à l'époque, tu m'avais dit ça. Mais...
Bah non, je le pense toujours encore, hein. Ceux de ma famille, ils me disent tout le temps, c'est marrant parce que quand on te voit skier, on voit que tu skies presque mieux que tu cours. Et en fait, les gens ne le savent pas, mais c'est marrant parce que c'est vrai que sur les résultats de compétition de ski alpinisme, je suis bien moins performant qu'en trail parce que je m'entraîne pas spécifiquement. C'est un sport ultra technique en compétition avec les manipulations, avec tu vois, le matériel qu'il faut gérer à 100%. Et moi, c'est un peu ma décharge mentale l'hiver de me dire je fais le sport dans lequel je suis presque né, mais sans aucune pression, et c'est que du plaisir. Je fais une Coupe de France, je finis 20e. Mais je sais que j'ai donné tout ce que je pouvais physiquement, et en descente, j'ai rattrapé à chaque fois des gars. Je suis juste content, quoi, voilà. Et puis, je sais que devant, c'est des monstres. Donc c'est
Pas de
super
regret,
chouette.
ouais.
Ouais, mais ouais, j'ai toujours gardé le ski. Donc voilà, je pars en STAPS. Je décide d'aller faire sport-études parce que c'est vrai que je voyais que physiquement, j'avais toujours des super notes en sport, que c'était quand même ma passion d'être en montagne. Mais loin de là de me dire que j'allais, en tout cas, vivre de ma passion, c'est-à-dire athlète, tu vois. À cette époque,
C'était plutôt quoi,
moi, je
la
voulais être prof.
transmission? Ouais, c'est ça, tu voulais transmettre à
Oui,
d'autres.
ouais, c'est ça. Je voulais être prof de sport, prof de PS ou entraîneur, je ne savais pas. Mais je voulais vraiment être dans ce milieu. Donc, de fil en aiguille, je me retrouve en sport-études, enfin en STAPS, à passer le concours de prof de PS. Et puis, ben, après, on arrive vite en 2016, justement, où, tu vois, je remporte mes premières compétitions de trail un peu long, et où je me dis, quand même, ce serait dommage de passer à côté de peut-être quelque chose qui te rendrait, mais complètement, vivant. Et si tu pars à Paris, il y a quand même de grandes chances que l'ultra trail, en tout cas, tu mettes une croix dessus pendant 4-5 ans. Qui te dit que dans 4-5 ans, tu n'auras pas d'autres projets, peut-être beau aussi, hein. Mais je voulais vraiment pas lâcher ça sur le moment. Donc j'ai un peu changé de voie, tu vois, pour rester dans la région, en tout cas dans les montagnes. Pareil, il y a eu d'autres changements, c'est qu'ensuite je me suis dit, bah, quitte à être en montagne, je vais faire le concours de sous-officier de gendarmerie pour intégrer peut-être le PGHM, secouriste en haute montagne, sachant qu'ils ont un niveau en ski alpinisme, en escalade dingue. Donc j'ai fait pareil, tout le chemin pour, hein. J'ai repassé les concours, les 9 mois d'école pendant le Covid.
Pas
Et en
simple.
fin de compte, alors c'est la loi de la vie, hein, mais je ne suis pas tombé au bon endroit en unité de gendarmerie. On ne m'a pas permis de m'épanouir, de réussir à passer les diplômes pour aller au PGHM. Mais un mal pour un bien, parce que c'est l'année où je fais troisième de la TDS. L'année d'après, top 10
2021, ouais.
UTMB, voilà. Et ce qui m'a permis d'ouvrir des portes, de toucher du doigt un de mes rêves que j'avais jamais finalement sorti de ma tête, de vivre de vraiment la passion du sport, mais de mon sport, tu vois, de ma pratique personnelle. J'ai très peu dit à mon entourage. On va dire que depuis 2018, dans un coin de ma tête, il y avait toujours, sur chaque entraînement, donne-toi à fond, parce que au moins, tu ne regretteras jamais si tu n'arrives pas à devenir athlète professionnel. Mais par contre, toi, personnellement, crois-y, enfin vraiment, crois fort en ça, parce que si tu y crois pas, tu vas pas te donner assez et tu y arriveras jamais.
T'as eu des moments de découragement là dans cette quête au long cours et un peu incertaine?
Oui, quand même, oui. Quand tu vois, tu travailles quand même, tu fais des nuits de boulot, même en école militaire, j'avais plus le droit de courir, donc j'y allais en cachette. Entre 4h15 et 5h15 du matin, tous les matins. Il y a des matins où tu te dis pourquoi je fais ça, ça sert à rien, de toute façon on m'interdit. Tu vois, c'est plus les barrières qu'on te place alors que toi t'as rien demandé, tu veux juste être libre et en fait faire ce que tu as envie de faire en plus de ce que tu dois faire la journée. Mais quand on t'interdit les choses, ça te décourage parce que t'as plus le choix quoi. Donc moi j'ai un peu forcé les barrières. Et c'est aussi, je trouve, une très belle source de motivation, tu vois, pour tout le monde. C'est que parfois, je veux dire, il y a peu de gens qui sortent de chez papa et maman, qui n'ont pas de travail et qui deviennent pro. Ça, c'est un peu, il y en a, mais très peu. On passe quasi tous par la case. On a un travail à 40 heures par semaine, un logement, toute la paperasse à faire, plus s'entraîner. Et c'est ça, tu vois, cette déclic que les sportifs professionnels actuels, ils ont. De s'être pas découragé à ce moment-là, tu vois, d'y avoir cru.
Et c'est vrai que le double projet est de plus en plus encouragé justement par les équipes qui comprennent que l'accomplissement perso, s'il passe aussi par ça, par la réalisation d'un double projet, mais qu'il ait suffisamment de place pour l'accomplissement sportif, que c'est bien que les deux puissent coexister, et que c'est pas incompatible, et qu'il faut bien juste périmétrer chacun des deux pour se donner les meilleures chances de résultat, et puis à côté de ça, avoir une bonne assise, quoi, un bon socle global personnel.
Ouais, exactement. Après, tu as des milieux, c'est vrai, qui le permettent. Et ça, je trouve ça vraiment chouette parce que, en effet, comme tu dis, double projet, c'est bien aussi pour des personnes qui auraient tendance à stresser. Peut-être un peu se dire, mais si je réussis pas d'un côté, qu'est-ce qui se passe? Donc, bah, il y a toujours l'autre côté qui fonctionnera. Moi, je m'étais plus dit, je veux passer 100% de mon temps à pas profiter parce que c'est un peu vu comme on fait rien, mais tu vois, à faire ce que j'ai envie de faire. Voilà. Et du coup, je pense que c'est une motivation qui m'a vraiment suivi jusqu'à il n'y a pas longtemps, en tout cas, pour réussir à devenir athlète à 100%. Donc voilà un peu mon chemin jusqu'aujourd'hui.
Parfaitement raconté, on a bien compris ton cheminement et le sens de ta démarche. Arthur, on va revenir plus particulièrement donc sur l'année 2023, on va rembobiner même un tout petit peu avant qu'on ait échangé en mars dernier. C'était quoi tes ambitions sportives là pour l'année dernière? C'était quoi les objectifs principaux que tu t'étais fixés? Est-ce que tu avais décidé de faire les choses différemment de l'année précédente? Voilà, comment tu avais abordé cette année 2023 et puis les grands rendez-vous que tu avais fixés sur lesquels on va développer un peu plus tard?
Eh ben oui, cette année 2023, c'était un peu l'année de la redécouverte avec mon entraîneur. On s'était dit, bon, bah, l'année 2022, on a retrouvé tout ce qui était plaisir, performance,
Éric Lacroix, pour le citer,
connaissance.
ton entraîneur.
Oui, Eric,
François, pour le
plus qu'un
citer.
entraîneur, c'est mon
Partenaire.
ami maintenant, ouais, c'est ça exactement, avec qui on a un peu une relation vraiment très, enfin, très proche. On n'a pas besoin de forcément s'avoir au téléphone souvent pour qu'on se comprenne en termes d'entraînement, en tout cas, et de suivi. C'est assez fluide et c'est idéal pour moi. Donc, l'année 2022, on s'était dit, bon, bah, on retrouve plaisir plus performance. J'apprends à me reconnaître, à savoir où placer les curseurs de l'effort, ce genre de choses. Et 2023, vu que ça s'était quand même bien passé, on avait dit, bah, pour aller de l'avant, maintenant, faut un peu sortir de cette zone dans laquelle on est parce que sinon, on va stagner. Donc, j'avais prévu en avril le premier objectif de ma saison, alors que normalement le premier objectif, je le place plus en juin et une première course de préparation en avril, justement. Là, on avait décalé quand même plus tôt, donc ce qui fait que j'ai fait très peu de ski l'an dernier. Ça m'a un petit peu manqué. Mais par contre, ça a été très bien parce que j'ai fait la Transgran Canaria justement en février pour préparer la course en avril qui était Istria, bah, UTMB, un 100 miles, où là, on s'est clairement dit double objectif. Premier, bah, prendre ma qualification pour l'UTMB parce que j'en avais pas, j'avais pas de points. L'UTMB 2022 ne donnant pas accès à l'UTMB 2023. Donc ça, c'était l'objectif quand même principal de se qualifier, donc top 3, tu vois, un bel objectif. Et en deuxième objectif, on avait dit, c'est quand même pas une course relevée comme l'UTMB, donc il y a quelque chose à faire. Et s'il y a quelque chose à faire, c'est aller se découvrir. Il me dit, quitte à partir trop vite, vraiment, fais-toi confiance, tu pars.
Jouer avec les limites.
Exactement, tu vas jouer avec ta limite, tu te dis, mes limites sont là, bah, je suis un cran au-dessus. Voilà, pas 10 crans au-dessus, parce que ça sert à rien. Mais je vais tenter un petit peu plus, quitte à finir comme j'ai fini d'ailleurs, vraiment. Alors avec du plaisir, hein, mais je pouvais plus avancer. Franchement, le corps avait dit stop, mais c'était super chouette. Donc
Sur un
je
parcours qui est
me
pas peut-être tout à fait idéal pour toi, pas tout à fait adapté en
ah
plus.
non, en plus, alors c'était bien d'ailleurs de travailler là-dessus. Ça ressemble un peu à l'UTMB en plus plat, mais tu vois, c'est pas une diagonale des fous du tout, où je serais plus, en tout cas, en harmonie avec le parcours. Donc là, c'était un très beau début de saison 2023 qui m'a, je pense, beaucoup apporté en termes de confiance en moi. Je me souviens qu'après la course, il m'avait dit, Eric, bon, tu vois que t'es pas un manche sur le plat avec tes grosses cuisses. On te dit que t'es fait pour le dénivelé. Finalement, tu fais troisième, tu fais 100 km avec Jim. Et ça, les mots ont un gros impact. Tu te mets une vraie confiance en toi. Donc ça m'a aidé pour bâtir l'UTMB, qui était le deuxième objectif, clairement, de l'année, hein. Entre-temps, j'ai fait des courses un peu plus plaisir. Moi, je me suis retrouvé dans les parcours comme Andorre, très montagneux, voilà. Et puis ben UTMB, hein, deuxième gros objectif. Alors cette année, c'était forcément, au fond de moi, j'aurais aimé faire un podium top 3. Ça, c'est le rêve. Mais l'objectif numéro un de l'UTMB, c'était quand même de confirmer un niveau. Et donc, globalement, ça donne un top 10 sur l'UTMB. Donc, je m'étais dit, bah, si je refais comme l'an dernier, ou une demi-heure de moins, hein, ça c'était l'idéal, ça serait juste génial, parce que ça me montrerait que j'ai pas eu un coup de chance l'an dernier où tout s'est bien passé, la nutrition, pas de bobos, pas de, tu vois, de trop, trop gros coups de mou. Et ça, j'en avais peut-être besoin. Ça m'a montré que j'étais quand même assez carré sur les courses. Quand je planifie quelque chose en objectif, je fais attention au plus de paramètres possible. Et du coup, tu vois, ça a terminé avec une course qui aurait pu être, je pense, splendide et qui a été au final très belle. Voilà, tu vois, c'est un peu le résumé de mon UTM.
On va y revenir un petit peu plus tard. Je reviens juste sur Istria, Arthur. Donc, tu as fini deuxième de la course derrière Jim. Donc, c'était voilà, une très jolie performance au plus haut niveau. Est-ce que ça a été aussi pour toi un palier ou un marqueur psychologique fort qui te, d'un seul coup, te positionnait, toi, de façon pleinement assumée et confiante en haut de l'échiquier international avec voilà, l'élite des coureurs? Est-ce que c'est une performance qui a aussi peut-être permis de t'aider à te sentir légitime à ce niveau-là auprès des plus grands? Ou est-ce que c'était déjà, au regard de tes performances déjà bien remarquées précédemment, un chemin que tu avais déjà bien entrepris?
Alors, en fait, oui, ça a confirmé, mais non, c'est pas ce qui a vraiment déclenché ça, parce que après l'UTMB 2022, c'était un gros sujet avec Eric, mon entraîneur. En fait, il m'a dit, bon, maintenant, il y a un blocage qui est normal, c'est la loi du plus fort dans ta tête. Tu vois, c'est on dit qu'un tel est gagne. Et, par exemple, je te prends l'exemple de François Daen, l'UTMB 2022. Ou 21, ou ce qu'on veut, hein. S'il y a François, on suit François. S'il y a Kylian, on suit Kylian. On le double pas. Mais en fait, là, on parle plus que de soi. Ça veut dire qu'on regarde les autres. Et finalement, c'est pas la solution. Donc, Eric m'avait dit, fais comme si vraiment tu courais tout seul, avec tes propres sensations. Et si tu doubles un tel, c'est peut-être que lui, ça va pas au début, ça ira mieux après. Et donc, Istria, c'était vraiment en fait, bah, la preuve, c'est que je suis parti devant Jim. Sauf que c'est un parcours absolument pour lui, pas tellement pour moi. Et je me suis à aucun moment dit, tu pars trop vite parce que Jim est derrière. Tu fais ça, c'est pas bien, tu vas te le. Non, pas du tout. Donc, au final, on a couru ensemble 100 km, on a même pu discuter, ça a été un moment génial pour moi, je ne sais pas pour lui, mais voilà, on a bien, bien partagé. Et après Istria, ça a été, quand je te dis oui, c'est que finalement, ça a validé. Je me suis dit, mais en fait, oui, pourquoi je regardais les autres en me disant, contiens-toi ou alors fais comme eux. Non, toute l'année
C'est plutôt
avec.
décomplexé alors le terme, plutôt que légitimer, ce serait ça, la
Bah,
notion?
peut-être un petit peu, ouais. Parce que je pense que pas mal d'athlètes, ils se complexent en se disant, bon, bah, de toute façon, là, moi, j'aimerais, mais bah, non, je vais pas le faire parce que s'il le fait pas, il est meilleur que moi, donc je vais le suivre. Tu vois? Alors que chacun, hein, sur un 100 miles, a ses propres rythmes. Finalement, il vaut mieux s'écouter, soi que de regarder les autres, je pense. Donc, ça a quand même bien validé ça. Et maintenant, la preuve est que sur l'UTMB 2023, je suis parti, mais comme si j'étais tout seul en compétition, bien sûr, tu vois, à donner le maximum, à être le plus carré possible. Mais ce qui fait que je crois que je passe 20e au col de Vosa, parce qu'en montée, je n'avais pas d'hyper bonnes sensations au début. Et par contre, en descente, je laisse défiler, et en une descente, je me retrouve deuxième. Et Mathieu, qui m'avait vu passer après la course, me dit, mais qu'est-ce que tu as fait là? Tu as fait une mission kamikaze, tu voulais te flinguer les jambes. Et je lui dis, bah non, en fait, je me suis vraiment écouté moi et ça allait très bien en descente. Plutôt que de freiner et de me faire mal aux cuisses, j'ai laissé dérouler. Et il me dit, ah ouais, bah ok, finalement, enfin, tu vois, il a compris le fonctionnement, quoi. Ce qui est la preuve de s'écouter soi et pas trop regarder les autres. À l'inverse, quand il te double, faut pas non plus te dire, ça va pas, je vais être nul. C'est moi, j'ai mes qualités, j'ai mes, on va dire, défauts sur cette course à tel instant. Je vais concocter avec tout ça et au final, ça peut donner quelque chose de sympa quand même à l'arrivée.
Est-ce qu'on peut dire là que ton passage à Saint-Gervais au kilomètre 21 en deuxième place est un des plus grands moments en course, si ce n'est le plus grand?
Ah oui, au niveau émotionnel, actuellement, c'est le souvenir qui est gravé en moi, tu vois, et qui me peut-être donne beaucoup de force sur les entraînements et j'espère les futures compétitions. C'est, j'ai envie de revivre ça. Quand tu passes premier français sur l'UTMB dans un village plein de monde, avant
Très
la
bien
nuit en
reçu.
plus, oh là là, c'était mes.
Ah, j'y
C'est
étais,
comme,
c'était beau. Hein.
pour moi, c'était comme à gagner l'UTM. Enfin, je dis ça, j'ai pas gagné l'UTMB. C'était comme gagner quelque chose. Niveau interne, j'ai juste volé de l'entrée de Saint-Gervais jusqu'à la sortie. Et ces gens qui t'acclament, c'était juste incroyable, incroyable.
Pour revenir sur l'avant-course, l'UTMB, tu me l'as dit quand on a préparé cet échange, c'est un environnement dans lequel tu te sens très bien finalement, tu ressens assez peu la pression, peut-être contrairement à certains autres coureurs. Toi, tu es toujours dans une optique hyper positive sur ce que cette course promet. Tu avais fini 7e l'année précédente en 2022. Qu'est-ce que ça a changé en fait là de revenir sur cette UTMB cette année-là? Est-ce que par la force des choses, tu avais quand même toi plus d'attentes juste pour toi-même sur cette nouvelle édition? Parce que quand on a une 7e place et que voilà, tu avais quand même éclaté au grand jour à ce moment-là aux yeux de pas mal de monde, est-ce que ça peut biaiser aussi ton approche et l'espèce de sérénité que tu as habituellement face à cette course? Est-ce que ça a pu être une certaine forme de surpression ou plutôt juste une surmotivation?
Non, alors moi ça a été globalement que du positif. En fait, comme tu dis, sur l'UTMB, je me suis toujours senti à la maison un petit peu. C'est vraiment la course où c'est une période de l'année où en général je suis en forme. Tu sais, on a des cycles, chacun a des périodes de l'année. Moi, par exemple, octobre-novembre, je suis pas bien. Bon bah, moi je sais que fin août, en général, j'ai un beau pic de forme. J'ai envie de courir, j'ai envie de passer des nuits dehors. Donc, ce qui m'apporte beaucoup de sérénité sur l'UTMB. Deuxièmement, bah, la pression, on ne peut pas dire qu'on n'a pas de stress. Tout le monde a du stress et il en faut. Mais moi, il est que positif sur l'UTMB. Je me dis, en fait, c'est le moment de l'année où je vais pouvoir juger vraiment mon niveau par rapport aux autres. Et là, pour le coup, il faut le dire, c'est que tu peux te comparer aux autres. Parce que, y a un vrai niveau, il y a toujours un niveau de fou sur l'UTMB. Moi, j'adore ça, me dire que, ah bah, je vais faire ce que je sais faire actuellement, et on verra. Du coup, quand tu te dis ça, tu peux pas tellement te mettre une pression négative parce que si tu sais que tu vas faire ce que tu sais faire, finalement, si les autres sont meilleurs, ils seront devant, et puis si tu es meilleur que les autres, tu verras à la fin ton niveau. C'est très bien, ça va te permettre de te juger. Et donc ça m'apporte beaucoup de sérénité et de calme. Après, voilà, il y a quand même Justine qui filtre beaucoup les demandes, tu vois, d'interviews, de choses comme ça qui peuvent, par contre, vite apporter un peu de stress parce qu'on va te parler de Alors, cette année, vous allez gagner ou enfin deuxième français, tout ça. Et là, tu te dis, oula, les gens attendent beaucoup de moi. Et ça, faut peut-être pas trop se le dire. Faut rester un peu dans sa bulle de, bah moi, je vais faire ce que j'ai envie de faire, mais les gens, ils vont être contents si, tu vois, je fais bien. Mais si je fais mal, faut pas se dire qu'ils vont pas être contents. Sinon, là, tu stresses. Donc non, ça me permet en fait de passer un super moment et de à la fin être content parce que si tu veux, je suis pas déçu du résultat. Je me dis toujours on peut faire mieux.
9e place, mais t'as mis moins de temps que l'année précédente, 4 minutes de moins.
C'est ça. Et puis
21h31.
l'objectif était différent, tu vois. Je me suis dit, bon bah l'année dernière, j'ai fait quelque chose de super. Enfin, je trouvais ça très bien. J'ai géré presque de A à Z la course, ma course. Cette année, j'ai quand même pris plus de risques. Tu vois, je savais qu'avec Istria, je pouvais aller plus vite sur le plat, je pouvais descendre un peu plus fort. Donc, ce qui fait que je me retrouve quand même jusqu'au, je crois que c'est à Champé, à jouer aux portes du top 3, en étant deuxième français avec Germain, quand même un bon pote devant. Je t'avoue que j'ai même rêvé, et ça c'est beau, c'est le sport qui permet ça, mais t'as pas gagné la course, mais il y a peut-être 4-5 heures où j'ai rêvé d'un scénario, Germain qui gagne, moi deuxième, deux Français, les deux Américains qui se battent trop devant et qui lâchent. Ça aurait pu être magique. Bon, les choses ont fait que derrière, il y avait d'autres Français monstrueux aussi, hein, les copains qui ont poussé et qui sont revenus. Donc voilà, j'étais très content.
Donc bilan très positif, qui donne
Ouais.
envie encore plus d'y retourner, c'est ton maître étalon pour l'année à chaque fois, l'UTMB.
Alors oui, je vais y retourner cette année parce que je pense, et d'ailleurs, il faut être honnête, je suis sûr que je peux faire mieux, en tout cas mieux gérer. Il y a toujours des paramètres, peut-être pas physiques, mais mentaux, à un peu bouger à certains moments. Pour passer un cap. Donc je vais y retourner parce que voilà, j'ai encore envie de juger mon niveau sur cette course. Mais après, j'ai quand même envie de pendant 4-5 ans d'aller sur la Diagonale des Fous. Et je sais que je peux pas faire les deux parce que je m'entraîne trop toute l'année. Ce qui fait que j'arrive sur l'UTMB, c'est un pic de forme. Mais après l'UTMB, j'en ai quand même beaucoup dans les baskets et j'ai besoin de repos. Et j'ai déjà fait l'enchaînement. Ça m'a, pour le coup, je prenais moins de plaisir. Donc oui, l'UTMB, mais je dis pas que si je réussis cette année, pendant 3-4 ans, je vais aller plus sur l'île de la Réunion tenter quelque chose.
On parle de la suite de ta saison. Effectivement, c'est un questionnement où en général on clôture, enfin en tout cas, un certain nombre d'athlètes clôturent la saison autour de l'UTMB. Toi, tu t'es accordé une petite extra bowl au Templiers. Le piège, j'allais dire, c'est de ne pas tomber dans une quête de performance qui est par définition quasi impossible à atteindre au regard de l'engagement que tu as pu mettre dans l'UTMB.
Bah c'est ça, et alors autant je pense que tous les athlètes individuellement, si on leur pose la question chez eux, ils vont répondre bah oui, j'ai pas réussi à gagner toutes mes courses, mais par contre je suis très content d'avoir fini telle ou telle course. Par contre, si tu demandes au public, et c'est normal hein, ceux qui nous suivent, ils vont dire ouah, il a raté cette course dans sa saison, alors oui, il a gagné telle ou telle course. Et ils se rendent pas compte que, comme tu dis, après un objectif, en tout cas personnellement, moi j'aime beaucoup participer à des compétitions, mais pas pour gagner. Tu vois, les Templiers, ma saison était pleine et je voulais juste refaire cette course des Templiers qui, je trouve, est superbe avec un festival vraiment lié au trail, nature. Tu vois, c'est un peu l'essence du trail en France. Voilà. Donc juste se donner à fond. Mais le résultat, en fait, c'est juste de passer un bon moment. Donc ouais, non, moi j'ai fait le festival. Je t'avoue que 2 semaines avant, je savais même pas si j'allais courir, hein. J'allais y aller, mais peut-être en rando course. Et puis finalement, j'ai pris le dossard et c'était un super moment. Et pour te dire, je sais même pas quelle place j'ai fait finalement sur le festival. Donc
J'ai l'info si tu veux.
juste
Bah,
plaisir. Ah ouais.
c'était pas l'objet.
Alors.
Non, non, c'est.
Je sais que je finis devant mon pote Hugo Ferrari
Ok.
et que c'était bien sympa aussi de se friter entre copains sans jouer la gagne. C'était fun.
Ouais, 33e, c'était ça ta position. Mais
Ah voilà,
c'était pas de
je
toute
me
façon pas
rappelle.
l'objet. Arthur, ton année, elle a été très dense, parce qu'on a parlé là des grands rendez-vous. Il y a ton trail chouchou qui est le trail de la Rosière. Au mois de juillet, le Montreux Trail, le Red Light Trail Festival, le Trail sans Andorre, tu nous en as parlé aussi. 1000 heures d'entraînement, accessoirement aussi, de quoi s'occuper. Je vais te demander de faire un petit bilan de l'année 2023, mais façon conseil de classe. L'idée, c'est à la fois tu peux me parler de course, mais tu peux aussi me parler de choses plus de ressenti, enfin, tu vois, d'accomplissement, de sentiment sur ton année, tu vois. Donc, ça peut être, je sais pas quoi, ma qualité d'entraînement, mon état d'esprit, ou ça peut être ma performance sur telle ou telle chose. Wow, voilà, bref. Il y a quatre catégories, comme si on était à notre conseil de classe. Donc, l'excellence, les félicitations, les encouragements et puis la mise en garde. Alors, le vrai nom, c'est la mise en garde pour conduite, mais je pense que tu as eu un comportement irréprochable toute l'année. Donc, voilà, si on devait attribuer un peu sur cette année 2023, le petit élément de mise en garde, ce serait quoi, si on commence par le bas de la pyramide?
Ah bah clairement il est facile celui-là, c'est ce serait ne pas trop en faire.
Ok.
Parce que tu vois, je sais très bien qu'un jour comme aujourd'hui, où il fait grand soleil, il y a la neige, si j'ai 2-3 heures d'entraînement, je suis tout seul, ça peut vite glisser sur 5-6.
Ok.
Voilà.
Donc dans
Après quand je
l'entraînement
suis en
plus que dans
groupe,
le
c'est
volume de
différent.
course, c'est les deux. C'est aussi le nombre de dossards ou
Bah
c'est globalement sur la place de l'entraînement?
non, le nombre de dossards, ça y est, c'est quand même bien. C'est quelque chose que j'ai à accepter. Je réduis même d'année en année. Pourtant, tu vois, mon volume d'heures d'entraînement augmente. J'ai jamais fait auparavant 1000 heures d'entraînement et 500, je suis à plus de 500 000 mètres de dénivelé. C'est la première année que je fais ça. Par contre, c'est aussi l'année où je fais le moins de courses. Alors, ça en reste beaucoup pour certains, mais pour moi, c'est moins de courses. Donc, non, non, c'est vraiment au quotidien. Hein, attention. Enfin, c'est bien ce que je fais, je pense, mais il faut pas que ça aille trop loin.
Les encouragements, des choses qui sont promettes, des choses que tu entrevois et qui sont annonciatrices du meilleur si tu fais les choses comme il faut, si tu les travailles, développes comme il faut.
Bah, les encouragements, je pense, c'est sur le travail mental qu'avant je négligeais, je m'y intéressais même pas forcément. Tu vois, je disais souvent, depuis l'échappée belle, moi, mentalement, plus rien ne peut m'arriver. Je prends le départ, j'arrive au bout, sauf une blessure. Mais en fait, maintenant, on commence à travailler sur des moments de course où le mental peut t'aider à, sur ce moment-là, aller plus vite, ne pas relâcher, pas aller dans ce petit des craintes de faiblesse de bah finalement je vais ralentir parce que je suis bien dans cette zone. Non, non, on peut aller plus loin. Et là, on le travaille quand même souvent l'entraînement et surtout sur du spécifique avant l'UTMB. Donc, encouragement là-dessus.
Les félicitations.
Félicitations sur le côté assidu. Il peut faire n'importe quelle météo, il peut faire. En fait, si j'ai décidé d'aller m'entraîner parce que j'en ai envie, je vais le faire. Je vais trouver le moment, je vais. Il y a des fois, je suis fatigué, mais j'y vais quand même. Et je sais que ça me procure beaucoup de bien-être au final. Donc là-dessus, ouais, non. Quand il faut. Alors, faut. Le il faut, c'est. Il faut pas trop le dire. Parce que c'est. En plus, c'est pas vrai. Tu vois, je me force pas. Mais c'est plus félicitations sur. Punaise, tu arrives à avoir envie sur chaque sortie. Et ça, c'est vraiment chouette.
L'excellence.
Oh, l'excellence.
Dur de s'accorder ça.
Ouais, je. Alors même si, bah, tiens, je dirais, grâce à Eric justement, qu'aujourd'hui, et je pars de très loin, je me permets de dire que j'ai tel niveau, je suis fort, je m'entraîne beaucoup, je performe. Quand je prends le départ d'une compétition, rien que ce mardi à la Rosière pour une montée sèche, je veux gagner. Tu vois, je veux être devant parce que ça procure des bonnes sensations. Je vais dire excellence sur ça, c'est l'état d'esprit que j'ai réussi à changer et à accepter. Parce qu'en fait, quand on dit je veux gagner, quand on dit je suis fort, j'étais le premier à dire mais ça va pas, lui, comme il se la pète. Tu vois, non mais, tu vois, Edgar Gros-Piron avant une descente de ski de boss qui dit mais moi, de toute façon, je vais être champion du monde. Ça avait fait polémique, les gens avaient dit mais il se prend pour qui, tout ça. Et en fait, je vais te dire que pour gagner, il faut accepter de s'autoriser de gagner. Et je pars de très loin. Moi, j'étais le premier à dire. Quand on me disait oh bravo pour telle course et tout, je savais même pas quoi répondre. Je voulais direct esquiver le sujet et dire et toi t'as fait quelle course cette saison? Bravo. Et j'osais pas du tout parce que pour moi d'une c'était vu comme je vais me la péter. Je vais dire ouais t'as vu ouais, je suis super content, j'ai fait un top 10 à l'UTMB 2 fois, c'est trop bien. Et en même temps bah je me mettais une barrière parce que comme j'en étais intimement convaincu bah sur l'UTMB de l'année d'après. Bah, j'allais pas me mettre devant. Donc, en fait, c'est un peu un cercle vicieux.
Et vertueux
Je pense qu'il
aussi.
faut le faire bien, tout de
Si on le
même.
voit positivement,
Voilà.
ça peut créer
Oui,
aussi une belle
oui, oui.
dynamique.
Voilà.
Merci beaucoup Arthur. Avant qu'on ouvre le chapitre de 2024, j'ai une dernière question pour toi sur cette année 2023. L'image que tu en retiens plus comme spectateur, donc que ce soit sur place ou derrière un écran, est-ce qu'il y a un moment de l'année qui t'a particulièrement fait vibrer, je sais pas, Courtenay à l'UTMB, les championnats du monde où l'équipe de France a brillé, ou toute autre chose, peut-être dans un registre plus perso. Voilà. En tant que spectateur, qu'est-ce qui a été aussi marquant pour toi cette année?
Il y a surtout un moment que je retiens, après peut-être parce que je l'ai vécu de l'intérieur, mais c'est vraiment cet engouement qu'il y a pour l'Ultra Trail. En fait, en 3 ans, depuis la troisième place que j'avais fait à la TDS, donc 2021, depuis ce moment-là, je vois que ça a explosé en termes de spectateurs, en termes de ferveur, de suivi. Les gens commencent à comprendre ce que c'est que l'Ultra Trail. C'est pas juste, on part d'un endroit, on fait 170 km, on arrive au bout, waouh, c'est long, c'est dur. Non, ils commencent à comprendre, je pense que c'est une vie un peu courte qu'on vit tous. Et ils ont tous envie de participer à ça. Je vois dans mon entourage, tu vois, ils veulent tous venir sur l'UTMB, faire le suivi de l'UTMB. C'est pas se poster à un point pour nous voir passer. Ils veulent vivre un peu ce que c'est que l'Ultra Trail. Et là-dessus, je trouve ça juste génial pour notre sport que les gens aient compris un peu l'essence de notre pratique. C'est pas juste, on veut être plus fort que les autres et traverser la Corse en une fois parce que on pourra dire je l'ai fait en une fois. C'est plus vivre des choses que tu vivras pas si tu le fais en 4 jours. Et ça s'est vu sur l'UTMB, le nombre de gens qui sont venus la nuit avant qu'on parte sur le col du bonhomme, tu vois. Enfin, c'était à Notre-Dame-de-la-Gorge.
Un délire.
Incroyable. Le virage Courtenay, ils sont pas venus que pour Courtenay, finalement, tu vois, ils sont restés beaucoup plus longtemps que prévu. Bon, j'espère que les années à venir seront peut-être pas exponentielles parce que voilà, faut du temps aussi pour que les choses se fassent bien et que ça reste bien cadré. Mais si ça peut encore un petit peu augmenter, moi ça me va, hein, on partage encore plus.
Ça a été une belle ferveur, effectivement. C'était
Ouais,
incroyable.
ouais.
Arthur, comment il se passe là, ton hiver jusqu'à maintenant? J'ai cru comprendre que tu laissais un peu plus de place au ski de rando pour ton plus grand plaisir là sur ces dernières semaines.
Ouais, je pense que j'en avais besoin quand même après cette saison. C'était la plus grosse saison à pied que j'ai fait depuis que j'ai commencé, hein. Normalement, en février, je cours pas beaucoup. Là, on a fait l'état des lieux depuis les mondiaux l'an dernier, donc novembre, en
2022, ouais.
Thaïlande. Ouais, j'avais pas eu de coupure de compétition et de challenge à pied. Donc là, j'avais vraiment ce besoin. En plus, on est à La Rosière, donc station de ski. Je m'y retrouve vraiment là dans la coupure. Je continue 2 fois par semaine de courir, ce que j'aime bien. Mais le reste du temps, c'est ski. Je participe à pas mal de compétitions d'individuels ou duo que je connais dans des massifs comme Belledonne ou même la Tarentaise. Parce que vraiment, j'y prends beaucoup de plaisir. Donc j'espère que ça me fera déjà du volume en dénivelé. J'en ai déjà 3 fois plus que l'hiver dernier, ce qui est bien pour l'ultra, hein. Je pense quand même que ça fait une grosse base d'endurance. Tu travailles beaucoup en zone 2, zone 3, en ski de rando.
Ça a beaucoup aidé, je crois, Germain, sur l'année précédente. Germain Granger, il avait beaucoup fait le focus sur le ski et on voit la saison qu'il fait derrière.
Oui, tu vois, voilà, il fait une très belle saison, hein. C'est pas de choc, mais en même temps, tu es haut en altitude. Tu simules un effort de montée type ultra parce que tu as les bâtons. Et en 4 heures, tu fais un dénivelé que tu ferais en 7 en courant. Donc voilà, je vais essayer d'aller jusqu'à mi-mars avec la Pyramenta. Ça, c'est un événement un petit peu comme l'UTMB du ski alpinisme. Et puis après, petit à petit, remettre les dossards à pied parce que j'aime quand même bien en mars me dire que ça y est, quoi, on y retourne.
Qu'est-ce que tu peux nous dire là justement sur 2024 que tu nous as pas déjà dit sur ton planning? Qu'est-ce qui est confirmé à ce stade?
Bah écoute, 2 choses qui se confirment. L'envie de retourner sur l'UTMB au moins une dernière fois. Pour le coup, peut-être pas confirmée, mais tu vois, aller au fight avec moi-même. Me dire que maintenant, ça fait 2 ans que je trouve des points à améliorer. Là, je veux plus avoir d'excuses à la fin sur moi-même en disant ouais, tu peux faire mieux, tu vois. Là, j'ai envie de me dire, je pouvais pas faire mieux. Donc, je sais pas si ça se fera, mais j'ai envie de ça. Et deuxième point, bah réduire encore, pas de beaucoup, mais d'un ou deux, les dossards, surtout sur les courses assez longues, celles que j'aime le plus. Tu vois, je fais quand même beaucoup de courses entre 60 et 80, 100 km. Donc là, j'en ai enlevé deux. Et puis, on verra si j'arrive avec un petit peu plus de fraîcheur. Je pense qu'il n'en manque pas beaucoup, mais sur l'UTMB. Mais par contre, avec toujours ce bagage de confiance, avec une ou deux grandes courses avant. Parce que c'est pareil, si t'arrives trop frais, mais que t'as pas fait de longue course, il y a cet inconnu. T'es le premier ultra-trail de l'année où tu te dis, mais attends, comment on fait pour courir plus de 100 km? Moi, je sais plus faire. Donc voilà, ce double enjeu de un peu moins de dossard et peut-être plus de maîtrise sur les deux objectifs principaux que je vais avoir.
Tu as parlé là tout à l'heure des championnats du monde en Thaïlande où tu as représenté la France. Je crois que enfin, ça avait beaucoup de sens et beaucoup d'importance pour toi. Est-ce que c'est encore une aspiration que tu gardes en tête? Alors, visiblement pas pour cette année au regard de ton calendrier, mais est-ce que tu te rêves encore en bleu, blanc, rouge là dans les saisons à venir?
Alors, l'équipe de France, c'est pour moi le Graal. Si je pouvais re-représenter mon pays, je re-signerais, mais tout de suite, faut même pas me demander 5 minutes de réflexion. Le gros souci, c'est que là-dessus, Adrien Séguré, il fait beaucoup de travail. Il passe énormément de temps à essayer de faire comprendre à la fédération que bah, le trail long, c'est du vrai long. Il faut que ce soit un ultra. Les qualifications, faut qu'elles collent avec les championnats du monde. Et l'année prochaine, je croise les doigts pour que je puisse reparticiper aux sélections et me requalifier parce que globalement, la sélection se fera sur un parcours assez similaire aux championnats du monde qui seront très alpins, assez longs, enfin avec du gros dénivelé. 2025, je croise les doigts pour y être. 2024, je sais juste que c'est pas possible et j'en ai parlé avec Adrien en Corse quand on s'est vu. Les qualifications, c'est sur pour moi un format court et plat. Ce serait me tirer une balle dans le pied sur ma saison en étant intelligent. Tu vois, faut savoir que si t'es pas coureur de marathon, tu feras pas de 12 au marathon parce que même si tu t'entraînes fort pendant 6 mois, tu y arriveras pas. Il faudra plusieurs années. Donc voilà, j'ai pas envie de. Et je pense que l'année dernière, ça a été le. Enfin, cette saison passée, ça a été le cas. J'ai bien fait de pas tenter alors que j'en rêvais, hein. Mais j'aurais pas été pris. Il y a des gars qui tournent beaucoup plus vite que moi sur des 60 km avec 2000 de dénivelé. J'aurais pas eu ma place, quoi.
L'histoire n'est pas terminée, en tout cas, on te le souhaite et on nous le
Non.
souhaite. J'ai une quasi dernière question pour toi, Arthur. Ta saison 2024, elle sera réussie, si quoi? Qu'est-ce que tu voudrais pouvoir te dire pour considérer qu'elle est réussie?
Alors, ambitieusement, si je gagne l'UTMB, non. Ça, c'est mon rêve ultime. Donc un jour j'espère pouvoir dire bah ça y est j'ai réussi ça mais non elle sera réussie si je maîtrise les leviers qui étaient défaillants cette saison tu vois ça va être perte de confiance en moi aux 2 tiers d'une course ne plus arriver à se focaliser sur uniquement moi quand je vois passer les copains qui me doublent type Ludo et Mathieu sur l'UTMB me dire retomber dans des retranchements d'il y a 2-3 ans avec la fatigue, tu vois, c'est normal, mais voilà, c'est peut-être intérioriser des mécanismes qu'on met en place avec Eric tout au long d'une course, même avec la fatigue, que ça devienne des schémas vraiment automatiques. Donc, franchement, si je réussis ça sur les deux ultras, deux, trois ultras de ma saison, je pourrais dire qu'elle sera réussie et que 2025 sera sûrement encore plus intéressant en termes de course.
On croise les doigts pour ça, Arthur.
Ouais.
Dernière question, c'est un petit rappel sur notre précédent échange. Le motto de la fin que tu avais cité à l'époque, c'était derrière chaque problème, il y a toujours une opportunité. Est-ce que tu es toujours en adéquation avec cette vision? Est-ce que si je te posais la question, ce serait encore aujourd'hui ton motto de la fin?
Ah, oui, parce que c'est quand même une façon de voir la vie. Je pense aussi que le fait de d'être souvent en montagne tout seul, ou en tout cas en extérieur, ça amène très vite à avoir quasi quotidiennement cette phrase qui revient. Parce que tu peux compter pas sur grand-chose, tu vois, quand tu es au milieu d'une face enneigée et qu'il fait froid, qu'il y a du vent, qui fait moins 10. En fait, il y a une solution, c'est de toute façon, il faut redescendre à la maison. Tu vas pas appeler quelqu'un qui va venir avec sa voiture te chercher, te mettre au chaud. Tu vas pas appeler le PGHM en hélico. Enfin, ça, ce serait, tu vois, un peu l'extrême. Donc, il y a des solutions, j'analyse, on peut redescendre. Par là, c'est moins risqué. Par là, ça se fait. Bref. Et en fait, quotidiennement, tu trouves que on se met quand même beaucoup de problèmes qui peuvent être réglés assez facilement si on se dit, attends, c'est un petit problème parce qu'il y a, je peux faire ça et ça pour y échapper. Donc, ouais, non, ça m'aide beaucoup, hein, même sur les entraînements. Tu vois, tout bêtement, encore hier à Grenoble, je faisais mes intensités. Bon, il faisait super chaud. J'ai pas l'habitude actuellement qu'il fasse 15 degrés. Et sur le moment, je me dis, mince, voilà, là c'est foutu, les intensités, j'y arriverai pas. Et ben en fait, je me suis dit, non, mais attends, on s'en fout, fais au ressenti d'effort. Ton ressenti, il sera à 8 sur 10, tu vas pas avancer, mais la solution, c'est juste de te concentrer sur toi. Et tu seras content à la fin. Donc, maintenant, c'est. Je vais garder
On
la même
change pas un
phrase.
moto qui gagne.
Ouais, exactement.
Merci beaucoup Arthur d'être revenu avec nous sur cette flamboyante année 2023 pour toi. C'est toujours le même plaisir d'échanger avec toi et puis de constater l'optimisme, la passion et l'engagement dont tu fais preuve et avec lequel tu embrasses notre si belle discipline. Je te souhaite que 2024 t'apporte tout ce que tu peux espérer. Je me réjouis aussi à l'idée de te croiser sur les bords de sentier ou idéalement aussi à proximité d'un podium. En tout cas, je te le souhaite. Merci pour ton temps. C'était un plaisir d'échanger avec toi.
Bah écoute, merci à toi de participer aussi à mettre en avant notre sport, hein. Je pense que les podcasts aujourd'hui, il y a bon nombre de coureurs qui les écoutent en s'entraînant. Moi, j'ai des retours là-dessus sur Instagram. Et d'autres personnes plus que moi qui les écoutent. Alors, sur Home Trainer, je les écoute
Ok.
beaucoup. Et en voiture. Franchement,
Tous les moyens sont bons.
ça permet de faire. Ouais,
Tu serais
voilà.
en
Donc,
parapente et que tu les
merci à toi.
écouterais, ce serait aussi un plaisir. Merci beaucoup Arthur, c'était génial. À très vite.
À plus. Salut.
Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.